Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans la vie, mieux vaut avoir toute sa tête pour savoir comment résister à l'assaut des méchants alors que l'on a été oublié dans la maison familiale par ses parents, comme dans Maman, j'ai raté l'avion de Chris Joseph Columbus. Toute sa tête pour s'exprimer, dire le fond de son âme et ainsi être considéré dans toute sa personne, être estimé même lorsque l'on est difforme, comme dans Elephant Man de David Lynch. Toute sa tête pour discerner le bien du mal ou plutôt pour écouter la voix de sa conscience, comme dans Un homme pour l'éternité de Fred Zimmerman. Du cinéma ce matin, mais pas si cérébral que ça, rassurez-vous. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Ces messieurs cinéma ont repris du service. On les a à peine quittés qu'on les retrouve. Ce n'est pas que le confinement dure, mais c'est qu'on avait prévu de se revoir. Et comme on aime bien se voir, et ben on continue. Et on espère que les auditeurs sont contents. Paul Dima, vous êtes toujours intervenant cinéma pour les Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Bonjour.
Bonjour et bonjour à tous.
Et Louis-Marie Soler, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence. N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors, ce vendredi matin, on parle cinéma, donc ça tombe bien, j'ai envie de dire, puisque le confinement continue plus longtemps que prévu, même s'il a été aménagé. Alors, comme il n'y a toujours pas de ciné-parole, ce ciné-club que vous animez, pour rappel, au cinéma L'ABC, cinéma d'art et d'essai à Toulouse, qui aura bien besoin qu'on se reprécipite au cinéma dès que l'on pourra. On a choisi non pas un film que vous allez voir bientôt et commenter avec et analyser avec les spectateurs, mais à nouveau un film humoristique pour cette première catégorie. On va commencer tout de suite par écouter un extrait de la bande-annonce donc de Maman, j'ai raté l'avion. C'est donc de Chris Joseph Columbus.
J'habite en face. Est-ce que vous quittez la ville? Nous, on va à Orlando, en Floride. En fait, il faut d'abord qu'on aille dans le Missouri chercher ma grand-mère. Vous savez que les McAllister vont partir en France? Et vous savez qu'il fait froid là-bas? Combien il consomme votre camion?
Je ne sais pas, il va jouer ailleurs. Allez, allez, dégage de là.
D'accord.
Heather, tu compteras les enfants quand ils seront dans le bus. Mais je sais comment je vais faire pour mes cheveux, ils sont mouillés.
Ah bah oui, bah le mieux, c'est de te mettre la tête dans le four à micro-ondes.
À combien est-ce qu'il roule ce car? Et puis, il y a combien de roues motrices? C'est le levier d'ouverture pour la porte, ça?
Il me semble t'avoir déjà dit que tu me cassais les pieds. Alors, tu balais, hein?
Oh. Allez-y, avancez.
Oh, il fait froid.
Je vais le dire à
Allez,
Fleur,
c'est lui.
Hé, hey, c'est pas moi.
Lélie.
Allez, dépêchez-vous, traînez pas. Mettez-vous en rentrant les cas. C'est moi qui monte la première, les filles d'abord.
Voilà, c'est donc dans une ambiance de Noël. On va redire l'histoire parce qu'on la comprend pas forcément avec ce teasing, cette bande-annonce. La famille McAllister a décidé de passer les fêtes de Noël à Paris. Seulement Kate et Peter, ce sont donc les parents, s'aperçoivent dans l'avion, un peu tard, qu'il leur manque le plus jeune de leur enfant, Kevin, âgé de seulement 9 ans. Kevin, évidemment, est un peu sous le choc, mais va vite reprendre les choses en main. Et quand deux cambrioleurs choisissent la maison pour commettre leurs méfaits, c'est le début de leurs ennuis, pour rester poli. Louis-Marie Soler, c'est vous qui avez suggéré ce film familial, m'avez-vous dit. Vous nous avez dit en préparant l'émission. Comment vous le présenteriez?
C'est la comédie typique de Noël. Ce qu'aiment particulièrement les Américains, ils aiment toujours ces films à voir à cette époque de l'année. Et nous aussi, finalement, parce que cette comédie est plutôt réussie, même si le titre, la traduction française du titre est pas tout à fait la meilleure. Parce que, en fait, Maman, j'ai raté l'avion, comme on en parlait avec Paul hors micro, il a pas raté l'avion, c'est qu'on l'a oublié. Et en fait, le titre original, c'est Home Alone, c'est-à-dire seul à la maison. Ça correspond mieux à ce qui se passe dans le film, puisque les enfants, et lui en particulier, avaient toujours rêvé, c'est le petit dernier de la famille, vous l'avez dit, il a beaucoup de frères et sœurs, beaucoup plus grands que lui, qui sont des adolescents, et donc à ce moment de la vie, on a plein d'autres choses à faire et surtout pas à s'occuper d'un petit, bien cet enfant rêvait de se retrouver seul à la maison, et le voilà seul à la maison. Alors que jusqu'à présent, jusqu'au moment où il est oublié, il ne faisait que des bêtises, parce que c'était le petit de la famille, donc il ne s'en privait pas.
Assez agaçant d'ailleurs pour ses frères et sœurs.
Plutôt tête à claque même. Et il va se retrouver dans une position inverse, là où il va devoir défendre la maison, parce qu'elle va être attaquée. Et c'est ça tout le piquant et le sel de cette comédie, parce qu'elle est tournée à hauteur d'enfant. La caméra est exactement à la hauteur de Kevin, et nous, comme lui, on est dans sa position et on voit tout avec ses yeux, et en particulier ces deux méchants cambrioleurs qui vont passer un mauvais quart d'heure.
Paul, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on écoute un autre extrait et ces méchants ?
Non, alors, on apprécie le film en rentrant dans le conte. Faut pas vouloir que tout soit vraisemblable, etc. Mais c'est une très très belle histoire dans laquelle aussi bien les enfants que les parents peuvent marcher. Et pour un conte de Noël, c'est merveilleux.
Voilà, c'est vrai que les méchants auraient dû mourir 10 ou 12 fois dans le film, entre autres avec les briques qui se prennent sur la tête. On va écouter un extrait, c'est les deux méchants qui commencent à rôder autour de la maison dans laquelle le pauvre Kevin est tout seul.
Cette fois, on croirait qu'il n'y a plus personne dans la maison. Alors qu'hier, cette baraque était pleine. C'est pas normal. Faudrait que t'y ailles. Là, maintenant ? Non, demain, espèce d'idiot. Allez, va jeter un coup d'œil.
Tu veux pas venir ?
Non ! Oh merde !
Fous le camp !
D'accord, Johnny.
Mais comment on fait pour mon pognon ?
Quel pognon ?
Joe m'a dit que tu avais du fric pour moi.
T'en es sûr ? Combien faut-il que je te donne ?
Joe a parlé de 20% cash.
Dommage qu'il soit pas là pour confirmer.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Il prend son bain au-dessus. Tu reviendras quand il en sortira. Hé ! En attendant, je vais quand même te filer quelque chose, Snakes.
Snakes ?
Tu vas avoir 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse hors de chez moi. Sinon, je te plombe les boyaux avec du calibre 12.
Très bien, Johnny, pardonne-moi. Je pars tout de suite.
1, 2, 10.
Voilà, donc il y a des méchants qui s'approchaient de la maison, et puis donc le petit garçon passe un film et des extraits d'un film et fait brûler des pétards, et c'est le grand méchant qui part. Il faut dire que les grands méchants, en l'occurrence, il leur manque plus que la bite Père Noël et puis la gaufre au chocolat, et ils peuvent aller au...
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas très malins.
Voilà. Non. Peuvent être au Jardin des Plantes à Toulouse.
Obstinés, mais pas malins.
Oui, c'est des méchants pour rigoler, parce que tout de suite, il leur arrive des tas de malheurs.
Oui. Alors, est-ce que c'est pas aussi, vous disiez, c'est une forme de conte, c'est un peu le rêve de tous les enfants, sinon oui. À Noël, d'être aux manettes, et cette fois, que ce soit eux qui mènent la danse.
Exactement, mais à partir du moment où il se retrouve seul, il se rend compte que c'est pas si drôle que ça, quoi. C'est pas si drôle que ça, d'autant que, bon, même si ce sont des méchants d'opérette, il faut qu'ils se défendent. Parce qu'eux, ils veulent vraiment cambrioler la maison. Et puis, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il est tout seul dedans. Et s'ils l'attrapent, ils risquent de passer un très mauvais quart d'heure. Donc, à un moment, il se trouve très seul. Et il va trouver du réconfort auprès d'un voisin. D'un voisin qui, lui aussi, en a besoin. Un vieux monsieur. Comme quoi, c'est toujours pareil. On s'attire et ce vieux monsieur est un allié de très précieux.
Paul Dima, un conte à hauteur d'enfant pour Noël, c'est le bon film à voir. En quoi ça nous met un petit peu dans la magie de Noël ?
Alors dans la magie de Noël, parce que le petit dernier, qui était le petit dernier, mais qui se débrouillait pour un peu agacer tout le monde, devient tout d'un coup le héros qui maîtrise tout. Il était peureux, il devient courageux, il embêtait les autres, il va être très altruiste et permettre des choses formidables, et puis il va défendre de façon tout à fait géniale la maison avec plein de subterfuges de son invention. C'est un MacGyver de la défense, de l'autodéfense.
De l'autodéfense, oui. Parlez-nous un petit peu du réalisateur Chris Joseph Columbus. Peut-être que certains le savent, mais aujourd'hui, il est très connu pour autre chose, Louis-Marie.
Oui, mais il commençait à se faire connaître, mais à l'époque, il n'avait pas encore tourné de film. C'est son premier film en tant que réalisateur, mais on le connaissait parce qu'il était scénariste de talent, et c'est à lui qu'on doit deux films formidables, Les Goonies, une histoire d'enfant, encore une fois, qui s'en vont à la recherche d'un trésor, qui appartenait à un pirate redoutable. Et ça se passe de nos jours. Hein, ça se passait de nos jours. Hein, il retrouve le vieux bâtiment. Et surtout, c'est lui qui a écrit les Gremlins.
Donc, c'est lui qui écrivait, mais c'est
pas lui
qui réalisait.
Voilà. Et après, bien sûr, en tant que réalisateur, il a fait ce film-ci et surtout les deux premiers volets des aventures d'Harry Potter.
Voilà.
Et c'est là, c'est ce qui l'a rendu encore plus célèbre. Mais Maman, j'ai raté l'avion. Ça a tellement bien marché qu'ils en ont fait des suites qui, malheureusement, ne sont pas à la hauteur du premier volet.
Maman, j'ai encore raté l'avion, c'est
oui.
ça ?
Oui.
Pourtant, on dit que ça a été quand même un succès aussi. Mais en tout cas, ce film a cartonné au box-office, on imagine aux États-Unis et aussi en France. Alors, j'ai vu comme tous les films cultes, pour une fois, on pouvait trouver des remarques, preuve que certains doivent le regarder en boucle. Mais il y aurait des scènes comme ça où il mange une pizza dans une main et puis le plan d'après, en fait, il a la pizza dans l'autre main.
Oui.
Bref, les grands spécialistes se penchent sur ce film. Preuve qu'il est regardé plusieurs fois par les fans. Voilà, un film donc à voir à Noël. On peut pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais enfin, on va bien rigoler, Paul Dima, quand même.
Ah oui, non, ça, c'est un très beau conte parce que tout le monde peut s'y retrouver. Les enfants, parce que ce petit dernier dans lequel les enfants peuvent se projeter, eh ben, il montre qu'il maîtrise la situation et qu'il va gagner. Et en plus, il va même être un peu magicien, ou plus que ça même, parce que ses grands frères, pour lui faire peur, avaient présenté un voisin qui, de fait, a une tête un peu, comme dirait Coluche, patibulaire, mais presque, et en disant « c'est un serial killer », enfin, c'est un tueur en série. Et puis, en fait, cet enfant va découvrir que il est tout seul parce qu'il s'est fâché avec son fils, il ne peut plus voir sa petite-fille, et dans une rencontre dans une église, ils se donnent des conseils mutuels et grâce à Kevin, le petit garçon, il lui dit mais pourquoi faut essayer de reprendre contact et tout. Et à la fin du film, on voit que ce vieux monsieur se retrouve en famille pour Noël. Et c'est magnifique.
Louis-Marie, ça fait partie des films cultes que regardent les Américains à Noël ou pas ?
Oui. Il y a bien sûr La vie est belle, dont on a déjà parlé.
Frank Capra.
Oui, mais celui-ci en fait partie. C'est une comédie typique de Noël, parce que là, on est vraiment dans l'ambiance de Noël. Et puis dans un quartier, alors là, c'est un quartier d'une ville. Quand on dit cossu, c'est plus que ça. On comprend bien pourquoi les deux voleurs choisissent ces maisons-là, hein, parce qu'il y a de quoi voler, effectivement. Il faut noter que la distribution est parfaite, et en particulier un des voleurs qui est incarné par Joe Pesci qui est un des acteurs favoris voire fétiche de Martin Scorsese puisqu'il donnait la réplique à De Niro de Raging Bull et la même année de la sortie de ce film il était à l'affiche des Affranchis du même Martin Scorsese où là il faisait un mafieux mais pas comme celui du film là, il était beaucoup plus dangereux.
Voilà, Maman j'ai raté l'avion, c'est en tout cas en français, c'est donc de Chris Joseph Columbus, c'est une belle comédie à voir en famille à l'occasion de ce Noël. Louis-Marie, la pause musicale qu'on va écouter, c'est...
C'est le thème du générique et on voit vraiment qu'on est dans l'ambiance de Noël. Thank you.
Emmanuel Pellat.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. C'est notre rendez-vous mensuel, mais ça prolonge un petit peu le temps de confinement qui dure. On avait choisi donc de vous parler cinéma pour agrémenter vos idées de sortie de week-end, sortie ou moins par le biais de l'imagination. Et nous sommes toujours avec nos deux messieurs cinéma, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Côtes-Pays, centre jésuite dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, mercredi 19h. Deuxième film, on reprend nos bonnes vieilles catégories, chef-d'œuvre humaniste, on a choisi Elephant Man de David Lynch. Film splendide s'il en est. On va écouter la bande-annonce, mais on va écouter juste un extrait parce que le film existe surtout, uniquement en anglais sous-titré. On peut donc le voir en sous-titré en français, mais la bande-annonce est en anglais. On l'écoute au moins quelques dizaines de secondes.
Are you in any pain? Are your parents still alive?
Life is full of surprises.
Voilà, I am a human being, c'est donc ce que dit John Merrick, qui est surnommé donc Elephant Man. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce film, c'est donc l'histoire de cet homme, histoire tirée donc de faits réels, qui s'appelle dans la vie Joseph Merrick, mais ça on y reviendra peut-être. En tout cas dans le film c'est John Merrick, qui est surnommé donc Elephant Man. Un certain chirurgien, donc on est à Londres à la fin du 19e siècle, un chirurgien qui travaille à l'hôpital de Londres, le docteur Treves, découvre à l'occasion d'une foire, comme il en existait à cette époque, où on voyait des hommes et des femmes de petite ou de grande taille, plus gros que la moyenne, et donc cet homme qui est considéré à l'époque comme un monstre, et que l'on montre dans cette foire. Ce chirurgien donc l'emmène à l'hôpital, le montre à ses collègues, et petit à petit il y a comme une amitié qui grandit, et il contribue à redonner de la dignité à cet homme, John Merrick, qui se trouvait en fait un homme d'une grande finesse intellectuelle, spirituelle et autres. Paul Dima, un petit peu plus sur l'histoire peut-être pour commencer.
Alors, c'est une période dans laquelle on n'avait pas peur d'exhiber, et pour en tirer profit, la femme à barbe et autres monstruosités. Et c'était très populaire. Et là, dans l'histoire de ce John Merrick, il est maltraité de façon ignoble par celui qui l'exploite et le réduit à une forme d'esclavage infrahumaine.
Mr. Bites, dans le film.
Voilà, Mr. Bites. Et le médecin qui le voit, lui, est intéressé par son approche scientifique. C'est-à-dire qu'au début, il le rachète à celui qui l'exploite pour faire une étude scientifique comme médecin, pour montrer toutes ces difformités, mais d'un point de vue médical. Et puis progressivement, parce qu'il est horrible à voir ce monsieur, il a des excroissances de partout, c'est pour ça qu'il s'appelle Elephant Man, il est tout tordu, et un visage qui fait peur. Et il y a une grande pudeur dans ce film. D'abord on le voit caché derrière les rideaux, et puis après on le voit avec un masque sur la tête.
Dans
Donc on
n'est
pas du tout dans une attitude de voyeurisme. Et il y a une découverte progressive qui nous amène à découvrir à un moment un visage qui de fait peur. Voilà, parce qu'il est sidérant. Et on se dit, mais c'est pas possible qu'il soit un humain comme nous. C'est une différence qui fait peur. Et toute l'approche du film et de l'histoire, c'est de découvrir que cet autre, c'est l'un de nous, et peut-être mieux que nous.
Alors, des critiques, il y en avait eu à sa sortie. L'année de sortie, vous vous souvenez, Louis-Marie
Sauvage? 1980.
1980, donc Le Monde. Le film de David Lynch est très beau par le sujet qu'il traite, très beau également par le tact et la délicatesse de la mise en scène. Le Nouvel Observateur, un moment d'émotion superbe, un chef-d'œuvre d'humour noir. Humour noir, bon là, je ne sais pas d'où ça venait, mais bon, humour, bref, c'est trop, un chef-d'œuvre. Oui. Télérama, le cinéma fantastique, s'est trouvé un nouveau maître, David Lynch. Parlez-nous de la mise en scène, de ces images, c'est des tableaux absolument extraordinaire à chaque fois. Film en noir et blanc, il faut le dire.
Oui, volontairement tourné en noir et blanc par David Lynch, qui n'avait pas encore l'aura qu'on lui connaît maintenant. Maintenant, c'est un grand nom du cinéma. À l'époque, il avait juste un film à son actif qui avait fait sensation, Eraserhead. Pas du tout dans le même genre. Un film très dérangeant, réussi à mon avis, mais qu'il faut voir... Et il faut faire attention à la façon dont on le voit. Je parle d'Eraserhead. Et en fait, ce projet, on le lui a proposé. C'est pas lui qui avait décidé de le faire. Et il s'est plongé dans ce film. Et par rapport à tous les films dans cette histoire, donc, et par rapport à tous les films qu'il a fait, alors on va le faire avec, en mettant des guillemets, avec une histoire vraie, Elephant Man est son seul film normal. Vous me permettrez de le dire comme ça, parce que ces autres sont plus abstraits, plus abscons. Il faut vraiment avoir une volonté formidable pour entrer dans les films. Moi, qui suis client de David Lynch, je suis toujours en pamoison devant ces images.
Si on en revient à l'Elephant Man, juste les images, pouvez-vous en dire un peu plus?
Oui, alors, c'est là où on voit que c'est un grand cinéaste, c'est qu'il est dans les images comme dans la position du chirurgien. C'est-à-dire le chirurgien découvre petit à petit qui est ce John Merrick, et nous, on est dans exactement la même position que lui. C'est-à-dire que petit à petit, on va voir qui il est et on va se rendre compte, comme le chirurgien, que c'est pas un imbécile, que c'est pas un idiot congénital comme il le pensait au départ. Au départ, ça n'a rien à, son physique n'a rien à voir avec ce qu'il peut penser, ce qu'il peut ressentir. Et en fait, la question du film, s'il y en a une, ça serait est-ce que je suis un homme bon ? Aussi simplement que ça.
C'est la question que se pose le chirurgien, et oui, c'est la question qu'on peut se poser nous aussi,
exactement,
à force de regarder le film.
À force de regarder le film et de voir comment notre approche et notre sensation qu'on a par rapport au personnage de Merrick évolue.
On va écouter un autre extrait. Alors, il est en anglais. On va partir du principe ce matin que nos éditeurs parlent anglais. Puis, éventuellement, on fera les sous-titrages après. John Merrick, donc, est invité chez le docteur Treves. Donc, c'est une maison cossue de Londres. Cet homme a une femme ravissante. Et John Merrick, donc, et cette femme se présente à John Merrick. C'est l'histoire de cette invitation à prendre le thé chez ce couple londonien.
I'm very pleased to meet you, Mr. Merrick. A beautiful woman. Would you like a cup of tea, Mr. Merrick?
It's a good idea. Would you like to come and see the rest of the house? Come on, I'll show you.
Voilà, donc John Merrick qui pleure parce que c'est la première fois qu'une aussi belle femme s'adresse à lui avec autant de distinction, et il en est bouleversé. Il y a aussi quelque chose dans ce film, c'est qu'il y a, on va dire, la distance toute britannique et la réserve, l'immense pudeur qui met encore plus en valeur, toute la délicatesse des sentiments et la distinction de ce John Merrick. C'est-à-dire que dès que les sentiments affleurent, alors là, ça brûle, quoi, on a l'impression, hein, Paul Dimain.
Oui, la question, ce film est très très fort parce que il interroge, comme le cinéma très souvent, il interroge le regard que l'on porte sur les personnes et sur le film. C'est-à-dire que là, il dénonce à la fois l'exploitation sordide de la monstruosité de John Merrick, mais il interroge aussi cette espèce de bien-pensance de la bonne société anglaise de la fin du 19e siècle, qui se satisfait d'accueillir et de reconnaître les qualités humaines et intellectuelles de ce John Merrick qu'on ne lui reconnaissait pas du côté du bas peuple. Mais les deux sont dans une position qui n'est pas tout à fait ajustée à ce monstre, entre guillemets, et c'est la confiance que John Merrick accorde aux personnes qui va les transformer, les bouleverser, c'est-à-dire que c'est un humain, quel regard je porte sur lui.
Quelle bonté d'âme il
semble avoir. Il est dans la confiance totale comme un enfant, et ça retourne complètement les personnes qui le regardent, qui acceptent de le regarder et d'être vues par lui.
Et d'ailleurs, le Dr. Treves, on ne va pas tout révéler du film, hein, mais évidemment, fait du chemin lui aussi. On le voit cheminer. Hein, on est comme, on va dire, il y a comme un effet miroir peut-être pour nous avec ce chirurgien. Louis-Marie Solaire, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre selon vous ?
C'est pour la façon dont j'ai déjà parlé, dont Lynch met en scène cette histoire. Et c'est comment on évolue. Comment on adhère finalement. Finalement, il nous prend à notre propre piège, David Lynch, dans le sens où on se rend compte qu'au fur et à mesure que le film avance, on traverse les différentes couches sociales de la société britannique, pas seulement de la bonne, puisqu'on commence tout à fait en bas. Et finalement, on se rend compte que les ivrognes, comme la bourgeoisie, je parle des ivrognes, c'est parce que c'est ce qu'on voit dans les rues, ces rues sombres londoniennes, il n'y a pas beaucoup de différence, finalement, dans leur comportement vis-à-vis de Merrick. Si ce n'est qu'ils ne vont pas s'exclaffer de la même façon. Ils ne vont pas le frapper, ceux de la haute bourgeoisie, ou de la bourgeoisie, tout simplement. Mais il va y avoir toujours quelque chose de condescendant. Qui, comme vous le disiez, justement, Emmanuel, est aux antipodes de ce que ressent cet homme. Il est difforme, il est à faire peur, mais dedans, il est profondément bon. Profondément, il peut pas. Dans la scène qu'on a entendue, quand il voit cette femme, la femme du chirurgien pour la première fois, c'est la première fois qu'on lui parle avec douceur, et c'est une femme qui est belle. Donc il en revient pas, parce que chaque fois qu'on lui a parlé, c'était pour lui foutre des torgnoles. Donc ça ne peut que le surprendre. Voilà en quoi il y a quelque chose de fort et de beau dans ce film de Lynch qui est vraiment quelque chose de... Enfin, un film vraiment remarquable.
Paul Dima, vous voulez rajouter quelque chose ou pas ? Moi, ça m'a fait penser à Lourdes. Hein, pardon, je ne veux pas tirer trop la couverture. Hein, mais vous savez, quand Bernadette dit « C'est la première fois que quelqu'un me vouvoyait »,
exactement.
Quand la Vierge Marie s'adressait à elle, voilà. Et qu'elle était bouleversée de ça.
C'est... Oui. Et en même temps, comme à Lourdes, c'est ce John Merrick, comme Bernadette, fait confiance. Et ce regard, comme ont les enfants, transforme le partenaire de leur regard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de miraculeux, osons le mot, dans une relation qui nous déplace sur tout jugement ou projection sur autrui. Et ça, c'est quand même très, très, très beau, très fort. Il y a quelque chose de la révélation, là.
Elephant Man, donc de David Lynch, magnifique film à voir en famille d'ailleurs, hein, en tout cas peut-être avec des adolescents.
Louis-Marie Soler. Il y a des images qui peuvent faire peur.
Oui,
un peu,
avec des adolescents d'un certain âge quand même. Oui. Louis-Marie Soler, la musique.
La musique, elle est signée John Morris. John Morris, j'allais dire John Merrick. Non, c'est John Morris, le compositeur de la partition de ce film. Thank you.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église dans ce vendredi matin avec Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs et centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de Radio Présence, mercredi 19h. Troisième film, c'est donc notre catégorie chef-d'œuvre spirituel. On a choisi Un homme pour l'éternité de Fred Zinman. Il n'y a pas de bande-annonce cette fois, alors on va commencer par l'histoire et puis après on écoutera des extraits. Il faut le faire, ça parle de Thomas More. Alors comme ça on se dit oulala, Thomas More, pour rappel, c'est donc ce grand homme, s'il en est en tout cas pour les chrétiens, hein, qui a été béatifié en 1886 par Léon XIII et en 1935 pardon, par le pape Pie XI,
canonisé,
saint patron des hommes politiques, et c'est un homme qui a suivi sa conscience donc au XVIe siècle, qui était un homme de loi brillant, qui avait été nommé donc chancelier du royaume par Henri VIII, et cet Henri VIII voulait divorcer donc de Catherine d'Aragon pour épouser sa maîtresse. C'est une grande page de l'histoire, hein, puisque c'est comme ça qu'est née l'Église anglicane, et il faut le faire, de faire un film historique et un film sur la conscience quelque part. C'est une gageure. En tout cas, c'est un film qui a été largement primé. On va y revenir. Sur l'histoire, Paul Dima.
Oui, c'est tout à fait ça. Et d'entrée de jeu, ce film met en vis-à-vis deux personnes qui sont prises dans des logiques différentes. Le roi doit avoir un héritier pour que le royaume continue. Et comme sa femme est stérile, eh ben, il n'a pas d'autre solution dans la logique de l'époque, en 1550 et quelques, que de répudier sa première femme pour épouser sa maîtresse qui va lui donner un successeur afin que le royaume puisse continuer. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... C'est un objectif politique, c'est pas simplement du marivaudage, c'est tout à fait autre chose. Et en face de lui, celui qu'il a appelé comme chancelier, donc le plus haut poste qui soit, quelqu'un pour qui il a beaucoup d'estime, Thomas More. Et Thomas More, un bon chrétien, lui ne peut pas abjurer sa foi et dire on outrepasse ce que dit l'Église, et il refuse de signer la requête qui est faite auprès du pape pour demander que le roi puisse épouser une seconde femme.
On va écouter un extrait, comme ça va nous mettre dans l'ambiance du film. C'est justement le roi Henri VIII et Thomas More qui discutent, et Henri VIII qui lui fait sa requête.
Parlons de mon divorce. Y avez-vous pensé depuis l'autre fois?
Je n'ai pensé qu'à cela.
Et vous êtes tombé d'accord avec moi?
Pour que vous répudiez la reine Catherine, sire? Hélas, quand j'y pense, je vois si clairement que je ne saurais approuver votre majesté que j'applique tous mes efforts à ne pas y penser du tout.
C'est donc que vous n'y avez pas assez pensé!
Du lilas. En avant, Hampton. Pas si beau, je dois le dire. Je suis d'excellente humeur. Thomas, il vous faut considérer que j'ai mis mon âme en danger. Ce n'était pas un mariage. J'ai vécu dans l'inceste avec la veuve de mon frère. Lévitique. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ta femme. Lévitique, chapitre 18, verset 16.
Je sais, sire, mais le Deutéronome...
Le Deutéronome est ambigu là-dessus.
Sire, il ne m'appartient pas d'être juge en cette matière. Pour moi, elle semble relever du Saint-Siège.
Oh, Thomas, a-t-on besoin d'un pape pour dire si on pêche ou non?
J'ai péché. Dieu m'en a puni. Je n'ai pas de fils.
Elle a porté des fils à maintes reprises. Ils sont tous mort-nés. Ou morts avant un mois. Jamais la main de Dieu ne se manifesta aussi clairement. J'ai pour devoir absolu de répudier la reine, et tous les papes depuis Saint-Pierre ne s'interposeront pas entre moi et mon devoir. Comment ne le voyez-vous pas? Tout le monde le voit.
Alors pourquoi votre majesté a-t-elle besoin de mon frêle appui?
Parce que vous êtes honnête. Les choses plus profitables, on sait que vous l'êtes. Il y a ceux comme Norfolk qui me suivent parce que j'ai la couronne, ceux comme Maître Cromwell qui me suivent parce qu'ils sont des chacals aux dents pointues et que je suis leur tigre, il y a la masse qui me suit parce qu'elle suit tout ce qui bouge. Et il y a vous.
Il m'est odieux de penser combien je dois déplaire à votre majesté.
Non, Thomas. Je respecte votre sincérité.
mais respecté.
Un homme pour l'éternité. Alors, Louis-Marie, c'est un film assez exigeant hein, quand même à regarder. Oui. Pour autant, c'est un film donc, qui a eu l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur, l'Oscar du meilleur acteur, donc pour Paul...
Six, il y en a eu.
Six.
Dont les plus prestigieux, sauf le prix, l'Oscar de la meilleure interprète féminine. Donc, c'est les plus grands. Mais, et pourtant, ça a été difficile. Hein. C'était difficile parce que Fred Zinnemann, on lui avait proposé la pièce. C'était compliqué. Les studios ne voulaient pas la monter. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. On est en 66. En 63, Joseph Mankiewicz tournait Cléopâtre, qui est à ce jour le film le plus onéreux de l'histoire. 4 heures de film, enfin c'est quelque chose d'énorme qui a coulé littéralement le studio qui l'a financé, j'ai oublié lequel d'entre eux c'était, c'est incroyable parce que le film a rapporté mais pas autant que ce qu'il avait coûté. Alors faire un nouveau film en costume, alors là les studios ne voulaient même pas y penser, et comme le budget était pas trop important, Zinnemann a réussi à faire son film et même il a réussi à imposer ses acteurs parce qu'il ne voulait pas d'acteurs connus. C'est Paul Scofield qui interprète Thomas More et qui l'interprète remarquablement bien, qui lui donne toute cette âme, toute la profondeur du personnage et qui lui a permis d'obtenir l'Oscar du meilleur interprète. C'est vraiment un très grand film. Mais Zinnemann...
Et ce réalisateur, Fred Zinnemann, est coutumier de ce type de film, on va dire, exigeant ou pas ?
Oui, et alors le pauvre, je dis le pauvre parce que c'est finalement quand même un grand réalisateur américain, Fred Zinnemann. Il est décédé à 89 ans. Je crois que c'est le réalisateur qui peut se targuer d'avoir reçu le plus d'Oscars pour ses films, 25. C'est un réalisateur qui a eu 25 Oscars, dont 3 fois pour la meilleure mise en scène, pour un documentaire Benji, mais pour Tant qu'il y aura des hommes, c'est lui qui a réalisé Tant qu'il y aura des hommes, et pour donc Un homme pour l'éternité. Mais il n'a jamais, jamais été apprécié par la critique. Il s'est toujours fait descendre. Quel que soit le film qui tournait, il y avait droit, mais par contre, le public allait voir ses films. C'est ça le paradoxe. Et... on se souvient de son premier film, le premier film qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le fameux western Le train sifflera 3 fois, c'est Fred Zinnemann. À savoir qu'en France, dans les cahiers du cinéma, il se faisait régulièrement descendre par Claude Chabrol, qui ne pouvait pas l'encaisser. Donc pour revenir à l'histoire de ce film, c'est ça qui est important, il a fait finalement ce qu'il avait envie de faire avec les acteurs qu'il avait envie de mettre en scène. Et il faut bien avouer qu'il arrive à quelque chose de vraiment très très fort. C'est du théâtre filmé, mais avec une adresse incroyable, incroyable. Ça parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça parle bien ? Et ça vient bien, et les acteurs sont formidables. C'est-à-dire tous, la scène avec Henri VIII, Robert Shaw, elle est extraordinaire, celle qu'on vient d'entendre.
Paul Dima, pourquoi c'est un grand film ? Parce que ça parle d'un grand sujet, mais pas que, c'est...
Parce que c'est très très bien monté, c'est très bien interprété, et c'est d'une subtilité des dialogues tout à fait réjouissante, sans être un télo. Faut pas croire que c'est ennuyeux comme film, parce qu'on est pris par ce dilemme terrible où deux hommes qui s'apprécient et qui ont toutes les raisons de s'apprécier vont être obligés de se confronter, de se séparer, et l'un des deux va être condamné à mort, parce que c'est pas possible de faire autrement.
On rappelle donc pour l'histoire, en 1531, donc, Thomas More refuse de reconnaître l'acte de suprématie qui permet au roi de prendre la tête de l'Église d'Angleterre. En 1932, donc, cet homme démissionne de sa charge, ensuite refuse d'assister au couronnement donc, de la maîtresse du roi, et puis il est accusé de haute trahison et emprisonné, et il sera tué le 6 juillet 1535 à Londres. On va écouter un autre extrait, c'est à la fin de son procès, où Thomas More fait entendre sa voix devant le tribunal.
Sir Thomas More, vous êtes reconnu coupable de haute trahison. La cour vous condamne...
Milord, au temps où j'exerçais la justice, l'usage était de demander au prisonnier, avant le prononcé de la sentence, s'il avait quelque chose à dire.
Avez-vous quelque chose à dire ?
Oui. Puisque la cour s'est déterminée à me condamner, Dieu sait comment. Je vais maintenant... décharger ma conscience en ce qui concerne l'accusation et le titre du roi. L'accusation s'est fondée sur un acte du Parlement qui est catégoriquement incompatible avec la loi de Dieu et de la Sainte Église, car nulle personne parmi les fidèles ne peut se prévaloir d'aucune loi humaine pour prendre le gouvernement suprême de l'Église entre ses mains. Celui-ci a été accordé par la bouche de notre Sauveur Jésus lui-même, à Saint-Pierre et après lui aux évêques de Rome, quand le Christ était vivant et qu'il était personnellement présent sur cette terre. En conséquence, nul n'est fondé en droit à accuser un chrétien d'observer cette loi morale. Et mieux encore, l'immunité de l'Église est expressément garantie par la Grande Charte et par le serment du roi lors du couronnement. Nous voyons maintenant toute votre félonie.
Voilà pour l'extrait, un peu cut, pardon, aux auditeurs. En tout cas, la chose est posée. Qu'est-ce que c'est beau, un homme comme ça qui fait valoir sa conscience devant les autres. Peut-être qu'il faut donner un petit peu plus d'éléments quand même sur l'histoire, ne pas partir du principe qu'on la connaît forcément. Qu'est-ce que vous rajouteriez, Paul Dima, pour nous aider à rentrer dans ce film et nous donner envie de le voir?
Alors, d'abord, il faut se souvenir qu'on n'est pas dans la période contemporaine, hein, et que les façons d'exercer la justice et de penser ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le roi est tout-puissant, il est le représentant de Dieu. Voilà. Et en face de lui, son chancelier, qui est le poste le plus élevé, le grade le plus élevé dans le régime politique, est aussi un humaniste qui a combattu les protestants en Europe, qui a rédigé des traités de théologie. C'est un grand savant et qui est estimé et respecté par son souverain, qui est en fait son conseiller et qui est aussi son ami. Mais voilà, les circonstances font que lui, il a besoin de pouvoir avoir des enfants et donc d'outrepasser la loi de l'Église. Et face à cette décision-là, Thomas More est dans un dilemme terrible, parce que en même temps, il continue à se déclarer fidèle sujet du roi, mais en même temps, fidèle sujet de l'Église. Et les deux sont, pour l'instant, en cette occasion-là, incompatible.
Et il suit sa conscience. Thomas More est connu pour ça.
Il suit de façon très habile aussi sa conscience, parce que c'est un très grand juriste, et il dit « la loi va me protéger jusqu'au bout ». Sauf que la loi, là, est tordue par des arrivistes, on pourrait dire comme ça, ou des gens qui sont plus soucieux de leur rang hiérarchique et de leurs bénéfices sonnants et trébuchants que de la vérité. Et il dit à la fin, dans le procès, vous avez décidé de me tuer. Bon, eh bien voilà, j'en prends acte. Et j'ai plus de désir de rejoindre mon Dieu que de me défendre en me dédisant. Et il reste appuyé sur l'hypothèse que on ne peut pas prouver ma culpabilité, puisque je n'ai jamais rien dit, et on ne peut pas condamner sur un silence. Et je dis ma fidélité au roi et ma fidélité à l'Église. Voilà, maintenant faites ce que vous voulez.
C'est un saint qui est souvent cité, en tout cas une vie qui est souvent citée de plus en plus, parce qu'on considère que c'était donc l'époque de la Renaissance, hein, et que voilà, peut-être les chrétiens, en d'autres circonstances aujourd'hui, sont confrontés à des graves problèmes de conscience, et que cet homme peut éclairer par son exemple. Il dira, juste avant d'être décapité devant le peuple réuni, « Je meurs bon serviteur du roi et de Dieu premièrement ». Louis-Marie Soler, pourquoi c'est un très beau film? Vous ne le connaissiez pas et vous êtes heureux de cette découverte.
Ah oui, c'est un film extraordinaire. Extraordinaire à tous les points de vue, de la maîtrise de la mise en scène. C'est du cinéma, du vrai, du grand, du beau cinéma. Adapter une pièce, c'est toujours délicat, parce qu'on risque de faire du théâtre filmé. Le fait d'avoir choisi ces acteurs, ils sont tous parfaits. Il a eu un nez extraordinaire, Fred Zinnemann. Choisir John Scofield pour interpréter Thomas More, il est très très bien. Comme Robert Shaw, je le disais, dans le rôle d'Henri VIII, un roi un peu truculent, un peu qui aime qu'il y a des mœurs un peu légères quand même, hein, et puis quand même ce qu'oppose Thomas More au début, c'est que il avait quand même sollicité le pape pour pouvoir épouser la veuve de son frère. Qui lui avait permis d'épouser la veuve de son frère. Alors Thomas More lui dit, il faudrait que le pape déroge à sa dérogation. C'est un peu délicat quand même de demander ça au pape. Hein. C'est vrai qu'on voit les arrivistes c'est très bien montré. On voit un jeune homme qui est prêt à tout pour arriver et qui finit et qui c'est le Judas, c'est Judas, c'est lui qui il va pas embrasser Thomas More, il va simplement le trahir en livrant un témoignage inique, complètement éhonté pour le condamner.
Paul, pour finir, le mot de la fin, avant qu'on rende l'antenne, un homme pour l'éternité, Fred Zinnemann.
Et évidemment, il y a une identification, comme le disait Louis-Marie, avec le jugement du Christ. C'est l'innocent qu'on assassine, mais qui garde la rectitude par rapport à sa position, son chemin.
C'est le Christ devant Pilate un petit peu, là, non?
Voilà, c'est ça. Il dit, vous avez décidé de me tuer, et voilà. Et je reste fidèle à ce que j'ai dit et ce que je suis. C'est l'innocent qu'on assassine.
Eh ben merci d'être venu nous présenter ces trois films, très différents les uns des autres. Hein. « Maman, j'ai raté l'avion » de Chris Joseph Columbus, comédie familiale à l'occasion de ce Noël. « Elephant Man » de David Lynch, c'est notre chef-d'œuvre humaniste du mois. Et « Un homme pour l'éternité » de Fred Zinnemann. Merci beaucoup. Cette émission est réalisée par Yannick Galupini. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.